Chapitre 37. C'était comme si elle avait quitté Dicky des yeux une seconde et le découvrait subitement métamorphosé. Son petit cousin avait disparu, et à sa place il y avait un ado qui n'avait rien d'un ado. 1m80, élancé et musclé, membre de l'équipe de basket du lycée de Willow, sortant avec une blonde à l'esprit vif du nom de Paige, qui y portait des mini-jupes et des Converse. Ifemelu lui demanda un jour « Comment ça se passe avec Paige ?» Dicky répondit « Nous ne couchons pas ensemble si c'est ce que tu veux savoir. » Le soir, 5 ou 6 amis venaient le retrouver dans sa chambre, tous blancs à l'exception de Min, un grand chinois dont les parents étaient professeurs à l'université. Il jouait à des jeux en ligne et regardait des vidéos sur YouTube. S'asticotait, se bagarrait, tous enfermés dans un arc brillant de jeunesse insouciante, au centre duquel se tenait Dicky. Il riait des plaisanteries de Dicky, cherchait son approbation et, discrètement, tacitement, le laissait prendre les décisions, commander des pizzas, aller jouer au ping-pong au centre communal. Avec eux, Dicky était différent. Il prenait un ton et un air assuré, bombait le torse, comme s'il avait passé la vitesse supérieure, et saupoudrait son discours de « n'est-ce pas ?» et « Hein ?»« Pourquoi parles-tu ainsi avec tes amis, Dicky ?» avait demandé Ifemelu. « Oh, cause, tu vas pas me traiter comme ça, hein ?» avait-il dit, avec une grimace exagérée qui l'avait fait rire. Ifemelu l'imaginait à l'université. Il serait un guide parfait, conduisant un groupe de futurs étudiants et de leurs parents, leur montrant les aspects admirables du campus, sans se priver de mentionner ce qui lui déplaisait personnellement, sans cesser de se montrer drôle, brillant et vif. Les filles tomberaient sous le charme, les garçons enviraient son brio et les parents souhaiteraient que leurs enfants lui ressemblent. Shan portait un haut doré brillant, laissant ses seins libres de se balancer quand elle bougeait. Elle flirtait avec tout le monde, effleurait un bras, serrait l'un de trop près, s'attardait un peu trop quand elle embrassait l'autre sur la joue. Ses compliments étaient tellement outrés qu'ils semblaient forcés. Pourtant, ses amis souriaient et les recevaient avec un plaisir évident. Peu importait ce qu'elle disait, l'essentiel était que ce fût dit par Shan. C'était la première fois qu'Ifemelu assistait à un de ses salons, et elle était nerveuse. Il n'y avait aucune raison. Il s'agissait d'une simple réunion d'amis, et pourtant, elle était nerveuse. Elle s'était torturée pour savoir quoi porter, avait essayé et écarté 9 tenues avant de se décider pour une robe bleue sarcelle qui lui amincissait la taille. « Bonjour !» dit Shan quand Blaine et Ifemelu arrivèrent. Ils s'embrassèrent. Est-ce que Grace vient ? Demanda-t-elle à Blaine. Oui, elle prend un train plus tard. Formidable ! Je ne l'ai pas vue depuis des lustres. Shan baissa la voix et dit à Ifemelu : J'ai entendu dire que Grace utilise les recherches de ses étudiants.
Quoi ?
Grace, j'ai entendu dire qu'elle se sert des recherches de ses étudiants. Tu le savais ?
Non,
dit Ifemelu. Elle trouvait étrange que Shan lui tienne ses propos sur une amie de Blaine, mais cela lui donnait aussi l'impression d'être singulière, admise au cœur des commérages intimes de Shan. Puis soudain, honteuse de ne pas avoir pris plus vigoureusement la défense de Grace, qu'elle aimait bien, elle dit « Je ne pense pas que ce soit vrai. » Mais l'attention de Shan était déjà ailleurs. « Je voudrais que tu fasses la connaissance d'Omar, l'homme le plus séduisant de New York. » dit Shan en présentant Ifemelu à un homme aussi grand qu'un joueur de basket, dont la naissance des cheveux était dessinée à la perfection, suivant la courbe du front et contournant les oreilles. Quand Ifemelu lui tendit la main, il s'inclina légèrement, gardant la sienne sur sa poitrine, et sourit. « Omar ne touche pas les femmes avec lesquelles il n'a pas de lien de parenté. » expliqua Shan. C'est très sexy, non ? Et elle pencha la tête en arrière pour lancer un regard aguicheur à Omar. Voici la belle et suprêmement originale Marie-Belle et son amie Joan, qui est tout aussi belle. Elle me donne des complexes, dit Shan. Marie-Belle et Joan, deux petites femmes blanches arborant d'énormes lunettes à monture foncée, gloussèrent. Elles étaient vêtues de robes courtes, l'une à pois rouges, l'autre bordée de dentelles, à l'apparence un peu fanée, pas très bien coupée, des vêtements dénichés dans une boutique de fripes. Elles avaient l'air déguisées, pour tout dire. Elles étaient l'image même d'une certaine classe moyenne éduquée, évoluée. Elles aimaient les robes plus intéressantes que jolies. Elles aimaient l'éclectisme. Elles aimaient ce qu'elles étaient supposées aimer. Ifemelu les imaginait en voyage. Elles collectionneraient les curiosités et en rempliraient leur maison, témoins peu raffinés de leur propre raffinement. « Et voilà Bill !» s'exclama Shan, serrant dans ses bras un homme à la peau très sombre, bâti comme une armoire et coiffé d'un borsalino. « Bill est écrivain, mais contrairement à nous tous, il est richissime !» Shan roucoulait presque. « Bill a une idée épatante pour un livre intitulé « Voyager quand on est noir ».»« J'aimerais beaucoup en savoir plus !» dit Ashanti. « Au fait, ma chérie, j'adore ta coiffure !» dit Shan. Merci, dit Ashanti. Elle arborait une débauche de cori. Il tintait à ses poignets, était mêlé à ses dreadlocks, encerclait son cou. Elle parlait de mère patrie et de religion Yoruba, jetant un regard à Ifemelu comme pour chercher son approbation. Mais c'était une parodie de l'Afrique qui mettait Ifemelu mal à l'aise, la laissant ensuite gênée de se sentir si mal à l'aise. « Tu as fini par obtenir une couverture qui te plaît pour ton livre ?» demanda Ashanti à Shan. « Plaît et beaucoup dire !» répondit Shan. « Écoutez, vous tous, ce livre est un livre de mémoire, d'accord ? Il aborde une quantité de sujets. Grandir dans une ville entièrement blanche, être la seule élève noire à l'école primaire, la mort de ma mère, tout ça... Mon éditeur lit le manuscrit et dit « Je comprends l'importance de la race, mais nous devons nous assurer que le livre transcende la race, afin qu'il ne s'agisse pas seulement de race. » Et je pense « Mais pourquoi faut-il que je transcende la race ? » Vous voyez ? Comme si la race était un breuvage qu'il vaut mieux servir tiède, adouci par d'autres liquides, sinon les blancs sont incapables de l'avaler. « Très drôle, » dit Blaine. Il n'a pas cessé de souligner les dialogues et d'écrire dans les marges « Les gens disent-ils vraiment ça ?» Et je pense. Dis donc, combien de Noirs connaissez-vous ? Je veux dire, sur un plan d'égalité, comme amis. Je ne parle pas de la réceptionniste du bureau ni du couple noir dont les enfants vont à la même école que votre gosse et à qui vous dites bonjour. Je veux dire que vous connaissez réellement. Aucun. Dans ces conditions. De quel droit pouvez-vous me dire comment parlent les Noirs ? Ce n'est pas sa faute, il n'y a pas assez de Noirs de classe moyenne avec lesquels se lier, dit Bill. Une quantité de Blancs progressistes cherchent à avoir des amis Noirs. C'est presque aussi difficile à trouver qu'une donneuse d'ovules grande, blonde, âgée de 18 ans et étudiante à Harvard. Ils pouffèrent de rire. J'ai décrit cette scène qui se passe à l'université concernant une Gambienne que je connaissais. Elle avait un faible pour le chocolat à cuire. On avait toujours une tablette dans son sac. Bref, elle habitait Londres et était amoureuse d'un type, un Anglais blanc qui était en train de quitter sa femme pour elle. Donc nous étions dans un bar et elle racontait cette histoire à un petit groupe, une autre fille, moi et un type, Peter, une espèce de Courtois du Wisconsin. Et savez-vous ce que Peter lui a dit ? Il a dit « Sa femme doit se sentir d'autant plus amère sachant que vous êtes noire ». Il l'a dit comme si c'était une évidence. Non pas que la femme soit amère à cause d'une autre femme, sans plus, mais qu'elle le soit parce que l'autre femme était noire. Je le raconte dans mon livre, et l'éditeur veut changer le passage parce que, soi-disant, ce n'est pas subtil. Comme si la vie était toujours subtile. Ensuite, j'écris que ma mère était malheureuse dans son travail. Elle avait le sentiment d'avoir atteint un plafond et qu'on ne la laisserait pas aller plus loin parce qu'elle était noire. Et mon éditeur me dit « Pourrions-nous avoir quelque chose de plus nuancé ? Votre mère avait des relations difficiles avec un collègue, peut-être ? Ou avait-on déjà diagnostiqué son cancer ? Ils pensent qu'il faudrait compliquer les choses, que ce ne soit pas uniquement une question de race. Et je dis, mais c'était une question de race. Elle était malheureuse parce qu'elle pensait qu'à toute chose égale, sauf sa race, elle aurait été nommée vice-présidente. Elle en a beaucoup parlé jusqu'à sa mort. Mais voilà, ce qui est arrivé à ma mère manque de nuance. Nuance signifie rassurer les gens afin que chacun puisse se considérer comme un individu, arrivé là où il est en raison de ce qu'il a accompli. « Tu devrais peut-être en faire un roman, » dit Mirabel. « Tu plaisantes ?» demanda Shan, légèrement ivre, assise par terre en position de yoga. « Tu ne peux pas écrire un roman honnête sur la race dans ce pays. Si tu racontes comment les gens sont vraiment affectés par la race, ce sera trop prévisible. Les auteurs noirs qui écrivent de la fiction dans ce pays, les trois valables, pas les milliers qui sortent ces livres merdiques aux couvertures multicolores sur le ghetto noir, n'ont qu'une alternative. Être précieux ou prétentieux. Quand tu n'es ni l'un ni l'autre, tu n'intéresses personne. Donc si tu as l'intention d'écrire sur la race, tu dois te débrouiller pour être tellement lyrique et subtil que le lecteur qui ne lit pas entre les lignes ne se rend même pas compte qu'il s'agit de race. Tu sais, une méditation proustienne, confuse et sans consistance, qui à la fin te laisse confus et sans consistance. Ou alors un auteur blanc. Les auteurs blancs savent parler brutalement de la race et se montrer activistes parce que leur colère n'est pas menaçante, dit Grace. « Et que penses-tu de ce livre récent, Monk Memoirs ?» demanda Maribel. « C'est un livre peu courageux, malhonnête. Tu l'as lu ?» demanda Shan. « J'en ai lu une critique, » dit Maribel. « C'est le hic. On lit davantage sur les livres que les livres eux-mêmes. » Maribel rougit. Elle n'aurait pas accepté ce genre de remarque d'une autre personne que Shan, se dit Ifemelu. L'idéologie est déterminante dans ce pays s'agissant de la fiction. Si un personnage n'est pas familier, il perd toute crédibilité, dit Shan. Ce n'est pas en lisant des romans américains que tu as une idée de ce qu'est la vie réelle à notre époque. Tu lis des romans américains pour savoir comment les Américains blancs tordus font des trucs bizarres à des blancs normaux. Tout le monde rit. Shan avait l'air ravi, comme une petite fille qui fait son show devant les amis importants de ses parents. « Le monde n'est pas à l'image de la pièce où nous nous trouvons, » dit Grace. « Mais il le pourrait, » dit Blaine. « Nous sommes la preuve que le monde peut ressembler à cette pièce. Il peut être un espace égal et sûr pour chacun. Il nous faut simplement démanteler la muraille des privilèges et de l'oppression. » « Voilà mon flower child de frère qui repart à l'attaque, » dit Shan. Les rires redoublèrent. « Tu devrais mettre ça dans ton blog, Ifemelu, » dit Grace. « À propos, vous savez pourquoi Ifemelu peut écrire ce blog ?» dit Shan. « C'est parce qu'elle est africaine. Elle a un point de vue extérieur. Elle ne ressent pas vraiment tout ce dont elle parle. Elle n'y voit que des comportements pittoresques et bizarres. C'est pourquoi elle peut les décrire, bénéficier de tous ses encouragements et participer à des conférences. Si elle était afro-américaine, on la traiterait d'aigrie et on l'éviterait. » Le silence emplit un instant la pièce. « Ce n'est pas faux, » dit Ifemelu. Elle s'en voulait autant qu'elle en voulait à Shan de céder à son emprise. Il était vrai que la notion de race n'était pas tissée dans son histoire. Elle n'avait pas été gravée dans son âme. Pourtant, elle aurait préféré que Shan lui fasse ses remarques quand elles étaient seules, au lieu de les faire maintenant, devant ses amis, avec une telle jubilation, laissant à Ifemelu un goût d'amertume, de perte. Une grande partie de tout cela est relativement récent, dit alors Blaine. Les identités noires et panafricaines étaient très fortes au début du XIXe siècle. La guerre froide a forcé les gens à choisir. Ou bien vous deveniez internationaliste, ce qui signifiait naturellement communiste pour les Américains, ou vous intégriez le capitalisme américain, ce qui fit l'élite afro-américaine. Il parlait comme s'il voulait prendre la défense d'Ifemelu, mais ses propos lui parurent trop abstraits, trop mous, trop tardifs. Shan jeta un bref coup d'œil à Ifemelu et sourit, d'un sourire où l'on pouvait déceler une grande cruauté. Quand, des mois plus tard, Ifemelu se disputa avec Blaine, Elle se demanda si Shan l'avait incité à se mettre en colère, une colère qu'elle ne comprit jamais tout à fait. Obama est-il tout sauf noir? Quantité de gens, généralement non noirs, disent qu'Obama n'est pas noir, qu'il est biracial, multiracial, noir et blanc, tout sauf simplement noir, parce que sa mère était blanche. Mais la race n'est pas de la biologie, la race est de la sociologie. La race n'est pas un génotype, la race est un phénotype. La race compte à cause du racisme. Et le racisme est absurde parce qu'il concerne uniquement l'apparence, pas le sang qui coule dans vos veines. C'est une question de couleur de peau, de forme du nez, de cheveux crépus. Booker T. Washington et Frederick Douglass avaient des pères blancs. Imaginez-les disant qu'ils n'étaient pas noirs. Imaginez qu'Obama, avec sa peau couleur amande grillée et ses cheveux crépus, dise à une employée du recensement « Je suis plus ou moins blanc. »« Bien sûr, » dira-t-elle. De nombreux noirs américains ont un blanc parmi leurs ancêtres. Parce que les blancs propriétaires d'esclaves aimaient faire un petit tour la nuit dans les quartiers des esclaves. Mais si vous naissez avec la peau sombre, c'est cuit. Alors si vous êtes une blonde aux yeux bleus qui dit « Mon grand-père était amérindien et moi aussi je suis victime de discrimination quand les noirs parlent de leurs emmerdes, par pitié taisez-vous. » En Amérique, vous n'avez pas la possibilité de décider à quelle race vous appartenez. On le décide pour vous. Barack Obama, tel qu'il est, aurait été obligé de s'asseoir à l'arrière des bus il y a 50 ans. Si un crime est commis aujourd'hui par un noir quelconque, on pourrait interpeller Barack Obama et l'interroger parce qu'il correspond au profil. Et quel serait ce profil? Homme de race noire.